Je me remets à bâtir des théories. Elles ne portent pas, pour une fois, sur l'organisation de ma vie ou celle de ma journée. Je m'attache à comprendre comment fonctionnent les autres, ces autres qui font l'amour, font des enfants. Moi aussi, je voudrais, comme tout le monde, revivre les liens de mon enfance. Je rêve, absurdement, de répéter le passé comme si de rien n'était. Je bute contre ces évidences. Je marche en parlant tout seul. Je poursuis un être qui me fuit. Noël Herp est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Souvenirs écran ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Harry Nilsson, « Souvenirs, souvenirs ».
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave.
Le vampire pour une fois.
Pourquoi aimez-vous les cimetières, Noël Herp?
Bah, je sais pas, dès mon enfance, j'ai aimé me promener dans les cimetières. Ça me donnait sans doute un pouvoir mystérieux. Les noms gravés dans la pierre, le passé, le côté lointain. Bah, quand vous êtes dans un cimetière, c'est vous le roi, quoi. Donc voilà, moi j'étais un enfant roi, me consolant pas peut-être d'être déchu de ma royauté, et donc agressé par le présent pour diverses raisons qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais cherchant à retrouver une royauté sur les morts. Et cette royauté, je l'ai trouvée à travers mon admiration pour des grands écrivains, pour des grands cinéastes, pour des grands acteurs, sur lesquels j'ai régné avec amour, parce que j'ai aimé Gaby Morlaix, j'ai aimé François Mauriac, j'ai aimé Monterland, comme s'ils avaient été des personnes vivantes. Je les ai aimés aussi parce qu'ils étaient des artistes, parce qu'à travers eux se présentait une image sublime de la mort. C'est des personnes mortes, mais qui avaient quand même laissé une trace. Donc j'avais le droit de les aimer, et de les emporter avec moi, et de me persuader, au fond, à travers eux, que la mort n'existait pas.
Êtes-vous vivant? Êtes-vous sûr d'être vivant?
Je suis pas sûr, non. Je pense que je suis un peu un fantôme. Quelqu'un m'a dit, qui est en train de lire ce livre, m'a dit, on se demande quand est-ce que ce livre a été écrit? Est-ce qu'il a été écrit au 19e siècle? Est-ce qu'il a été écrit aujourd'hui? Effectivement, j'ai souvent cette impression d'être, en fait, déjà mort, et d'avoir de ne cesser de renaître de mes cendres, et d'avoir besoin d'exercices, peut-être d'exercices d'admiration, mais aussi d'exercices d'écriture, pour me réinventer, pour renaître et pour me persuader que je suis vivant. J'ai besoin de me persuader que je suis vivant, de me persuader de mon être.
Vous avez écrit un livre il y a quelques années, puisque vous tenez un journal très précis sur vos états d'âme qui est absolument passionnant. Dans ce livre intitulé « Mes scènes primitives », vous racontez que déjà, tout petit, vous vous demandiez si vous étiez vraiment dans le monde.
Oui, je me regardais dans la glace, je me revêtissais de vêtements féminins, je me disais « mais est-ce que j'existe ?» Et effectivement, j'ai cherché des rites, des fétiches, à la fois des admirations donc, pour des écrivains tombés en poussière. C'est très curieux, les admirations pour des écrivains qui étaient plutôt des hommes, mais en même temps des fétiches du féminin aussi, une manière de me travestir pour devenir des espèces de femmes idéales, de stars idéales que j'admirais. Je me suis même revêtu un jour de la robe de Gaby Morlaix que j'avais récupérée. Effectivement, j'avais besoin d'éprouver mon existence en passant par le néant. Il me semble que c'est une expérience assez profonde en fait. On peut pas espérer exister si on n'a pas d'abord fait l'expérience du néant. Enfin, moi, c'est ce que je ressens au fond. C'est que j'ai besoin de m'accouder au néant pour me prouver que j'existe. De même que j'ai besoin de m'accouder à ma propre féminité pour m'éprouver en tant qu'homme. Enfin, c'est toujours dialectique. C'est toujours, c'est dur d'ailleurs. C'est souffrant. Hein. Mais en même temps, il me semble que ça me permet de garder quand même un certain état d'enfance.
Cet état d'enfance, il vous porte encore aujourd'hui, Noël Herpe, et il vous porte à travers des souvenirs corporels. Tout petit, toujours dans ce livre intitulé « Mes scènes primitives », vous parlez d'un moment où vous étiez en collant. Depuis, le collant est devenu une sorte de fétichisme chez vous.
J'aime pas trop le mot de fétichisme parce que je n'aime pas mettre des collants. Par exemple, j'en porte pas sous mon pantalon, vous voyez, aujourd'hui. J'en porte pas chez moi, mais j'aime me montrer en collant. Je trouve que les jambes des hommes sont très belles, qu'on a tort de pas les montrer. Je regrette que finalement ça soit plus à la mode. Et donc, je milite depuis des années pour le port du collant par les hommes, pas simplement à travers le ballet ou à travers la représentation médiévale, mais dans la rue aussi. Donc, ça m'arrive très souvent de sortir en collant dans la rue avec cette veste que vous voyez là et puis des collants, etc. parce que...
Voilà. Et rien en dessous.
Ah non, bah si, des choses pour cacher mes attributs, mais en même temps, ce que j'aime montrer, c'est pas tellement ce détail, mais c'est plutôt les jambes. Car les jambes, c'est à la fois quelque chose qui est perçu comme féminin aujourd'hui, et qui a été pendant des siècles l'emblème du masculin, et j'aime cette rencontre des contraires, j'aime ce mélange surtout de la convention et de la fantaisie. C'est-à-dire que je suis un universitaire, un homme sérieux, et en même temps, j'aime montrer ma liberté.
Votre genre, c'est pas le kilt, c'est vraiment
enfin,
les collants.
Non, pas du tout.
Les collants, collants.
Ouais, ouais, les collants, les jambes. Ouais, je trouve ça tellement beau, des jambes d'hommes.
Oui, et mais alors donc, les fesses. Mais donc, le jour, vous pouvez aller enseigner à l'université, et le soir, vous pouvez aller vous faire regarder dans des quartiers où on aime regarder les beaux hommes comme vous.
Oui, ou aller dans des vernissages comme ça. Je désespère pas un jour, d'ailleurs, d'aller faire cours comme ça. Je sais pas si mes étudiants seraient très contents. Et c'est aussi la rencontre de l'ancien et du nouveau. Là aussi, c'est mon côté fantôme. Quand j'étais à la fac de Caen, je faisais mes cours. Alors, j'étais évidemment en costard. Et puis, je rentrais par le train. Et j'étais tellement étouffé par ce carcan de normalité, de rationalité, de sérieux, que je me changeais dans les chiottes. Et je mettais des collants et des Santiago. Et là, j'étais content. Je buvais un peu de champagne. Parce que je mets souvent du champagne dans une bouteille thermos, et puis ça me permet de libérer ma fantaisie. Et je me marrais beaucoup, parce que tout d'un coup, c'était le merveilleux qui s'invitait.
Bah là, il y a une bouteille d'eau dans le studio, et vous êtes venu en jean, c'est un peu décevant ça, il faut revenir en collant.
Ah non, mais je suis comme Cécile Sorel, je ne bois jamais d'eau.
Que du champagne.
Que du champagne, oui, oui.
Le premier film, c'était quand ?
Le premier film que j'ai vu ? Ah, je sais pas, c'était, ça devait être un film avec un homme en collant. Non, non, en fait, c'est un film qui m'a terrifié. C'était Il était une fois dans l'Ouest. Mais je suis un homme qui est à la fois très, comme vous l'avez compris, qui est très courageux à certains égards, enfin intrépide, en même temps assez pusillanime et peureux. Et un film qui m'a légué la peur, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Oui, l'enfant qui descend au début et puis qui est cerné par les tueurs, ça m'a terrifié. J'oscille un peu entre ces deux extrêmes. Le cinéma, et d'ailleurs, quand j'étais enfant, je pouvais pas supporter de voir un film. Hein. Ma mère m'emmenait dans des cafés, tout ça. Et dès qu'il y avait une télé allumée avec des images animées, je criais, je hurlais, maman, je veux sortir, etc. Et même mes parents m'ont emmené voir Cendrillon, j'ai hurlé en pleurant pour sortir de la salle de cinéma. Et je suis pourtant devenu historien du cinéma. Je allais expliquer ce paradoxe. J'ai la phobie du mouvement et en même temps, j'ai besoin de le relancer. Et aujourd'hui, je le relance par l'écriture surtout, en fait. C'est l'écriture qui me permet de ne pas être tout à fait un homme du passé.
Mais pour vous, peut-être, Noël Herpe, le monde est un cinéma permanent, pas besoin de rentrer dans une salle.
Oui, je crois pas beaucoup à la réalité du monde. Ce sont des images. Et j'ai du mal à communiquer avec ces images. Elles me tiennent à distance. C'est d'ailleurs pourquoi ma vie amoureuse est compliquée. Je regarde les autres comme des images. Et j'aimerais trouver un lien avec ces images. J'aimerais peut-être aussi devenir ces images. ça c'est vraiment un vertige assez troublant que j'essaye d'explorer en partie dans ce livre. Comment arriver à faire autre chose que commenter les images, que regarder les autres, mais à un moment devenir autre, parce que devenir une image c'est aussi devenir l'autre. Et on est un peu prisonnier de soi. J'ai toujours ressenti un peu cette prison qu'est la subjectivité. J'ai envie de... Finalement, à travers mon amour du cinéma, il y a aussi l'envie de basculer dans une autre dimension qui serait l'altérité.
Êtes-vous une personne ou sculptez-vous votre personnage ?
Ah non, je crois pas que je sculpte mon personnage. Non, parce que je suis vraiment pas stratégique, je suis pas tactique, j'ai pas vraiment fait carrière... Enfin, si j'ai fait carrière, mais en même temps, je ne cesse de me tirer une balle dans le pied, je cesse de contredire par mon côté fantaisiste, mon côté sérieux, mon côté trublion contredit mon côté universitaire, mon côté écrivain contredit mon côté cinéaste. Je suis jamais trop là où on m'attend et là où je m'attends moi-même. J'aime me surprendre, car je pense que je suis finalement quelqu'un de tellement, peut-être tellement névrosé, que j'ai besoin de m'échapper en permanence. D'ailleurs, le premier titre de ce livre, c'était « Escape Artist ». À une époque, je faisais sur le plateau Beaubourg des performances où j'étais en collant, bien sûr, ligoté, souvent par des femmes d'ailleurs, et essayant de me délivrer de mes chaînes. Et j'aime beaucoup, pour moi, ce mouvement définit ma personnalité. Je pense que ça sert à rien de se dire qu'on est libre comme ça, c'est une notion théorique. On est libre à partir du moment où on a des chaînes et où on sait s'en délivrer.
Pourquoi aimez-vous les vieilles dames ?
Parce que j'aime ma mère.
Pas seulement. Écoutez cette dame dans Les Enfants du Paradis.
Ah, vous avez souri ! Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi ? Et vous venez à ma rencontre ?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors ?
Alors ?
Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous ?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi ?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh, rendez-vous ? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi ? Pour qui ? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre ?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment ?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre ?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
Alors, Arletty, c'est un de vos grands amours, Noël Herpe. Mais vous l'avez rencontré, oui, vous l'avez connu, vous étiez ami d'Arletty.
Non, j'ai pas été ami d'Arletty, mais je l'ai interviewé 2 fois, en effet. Et ça me bouleverse beaucoup que vous passiez cet extrait parce que c'est un grand souvenir. Je tannais mes parents pour qu'ils me montrent Les Enfants du Paradis quand j'avais 9 ans. Vous savez, mes parents, ils aimaient La Nouvelle Vague. Et puis moi, non, ce qui m'intéressait, c'était René Clair, Carnet, Duvivier, tout ça.
Un peu réac, quoi.
Un peu réac, mais toujours.
Un peu nostalgique. Toujours le passé, quoi.
Toujours un temps de retard, ouais. Mais, et puis un jour, ils m'ont montré Les Enfants. On a été à l'Escurial, qui était un vieux cinéma du 14e, on avait Les Enfants du Paradis. J'étais très déçu parce que je trouvais que Arletty, elle avait quand même une voix assez vulgaire et je l'avais tellement sublimée, fantasmée cette Arletty qu'elle m'a un peu déçu. Mais j'ai adoré ce film qui est devenu pour moi une référence absolue, bien sûr, et je l'ai rencontré plus tard, Arletty, en effet, oui. Oui, j'ai ce rapport aux actrices du passé. C'est marrant parce que, par exemple, Arletty, je lui posais plein de questions. Je faisais un livre sur Gaby Morlaix, alors je lui disais, mais alors Gaby Morlaix, elle était comme ci, elle était comme ça. Je lui citais des phrases de Françoise Giroud sur Arletty, que vous connaissez bien. Alors, elle me disait, oui, mais écoutez, je sais pas, je vous ai tout dit maintenant. Mais en 1924, quand elle a rencontré Henri Bernstein, savez-vous pourquoi ? Mais écoutez, ça suffit maintenant, etc. Donc, c'était complètement obsessionnel. Et j'avais cette idée que elle pouvait me raconter 60 ans après des choses du passé qui auraient été pour elle toujours vivantes. J'ai toujours eu cette idée que le passé était toujours vivant. Et pour moi, le passé n'est pas... Justement, je suis pas d'accord avec votre mot de nostalgie, ni de fétichisme d'ailleurs. Pour moi, le passé est vivant. Enfin, je pense qu'on peut s'appuyer pour le passé, pour renaître à nouveau. C'est ça qui m'intéresse.
Vous avez un côté dandy qui aimerait bien approcher un peu plus de beauté.
Oui, j'aime la beauté masculine, j'aime la beauté féminine, avec des options diverses. Mais oui...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'aime la beauté féminine dans son absolu, dans son sublime, et j'aime la beauté masculine peut-être d'une manière plus, plus immédiate, car je ne suis pas quelqu'un de très porté sur la chair, mais plus contemporaine.
Seulement l'esprit.
Disons que j'aime les femmes d'un certain prestige. Et
ça veut dire quoi, prestige ?
D'un certain prestige cinématographique. J'aime les femmes à partir du moment où elles sont des princesses lointaines, où elles sont des étoiles, oui, des étoiles un peu éloignées. Et les
quand
hommes,
elles sont vivantes, elles vous intéressent pas alors ?
Si, mais il faut qu'elles aient une aura. Vous voyez, par exemple, j'ai tourné un film, là, La Tour de Nesle, je viens de tourner un film d'après Alexandre Dumas, et j'avais une actrice qui s'appelle Jezabel Carpi, que j'ai fait jouer, vous savez, qui était l'actrice de La Nuit porte jartel de Virginie Thévenet. Et je lui ai proposé, ça faisait quand même un petit moment qu'elle n'avait pas joué, je lui ai proposé de jouer un rôle, et elle est formidable dans le film parce qu'elle a une aura. Et ça, c'est quand même une chose qui me fascine, qu'ont moins les hommes que les femmes, d'ailleurs, en tout cas les actrices. La caméra aime certaines actrices, peut-être encore plus qu'elle n'aime certains acteurs, et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Non, chez les hommes, je cherche autre chose. C'est peut-être plus une fragilité, quelque chose. À la vraie dire, c'est moins les hommes qui m'intéressent que les garçons. C'est quelque chose de voilà. Peut-être parce que je suis dans une sorte d'équilibre instable entre la fascination de la mère, de la figure d'une figure tutélaire comme ça, qui a été pour moi Gaby Morlaix dans mon enfance, et puis l'envie de rester le petit garçon que j'ai été, quoi. Donc j'oscille entre ces deux pôles.
Que faisiez-vous le soir, de nombreux soirs, en allant au duplex? Et le duplex existe-t-il encore?
Oui, le duplex existe encore, mais c'est un peu un endroit, pour moi, un endroit fantôme. À vrai dire, je ne me suis jamais reconnu, je dois l'avouer, dans la version officielle de l'homosexualité. Enfin, je ne me dirais pas homosexuel. J'ai une admiration esthétique pour les garçons dont je viens de parler. J'ai un goût pour les actrices qui fait partie d'une certaine mythologie homosexuelle. Mais au fond, le mot dans homosexuel me gêne le mot sexuel. Quand j'ai découvert l'homosexualité, c'est dans le livre de Julien Green, et c'était paraître sublime.
Que vous avez rencontré aussi.
Que j'ai rencontré. Et pour moi, c'était le goût de la beauté, comme vous dites. C'était l'envie d'approcher des demi-dieux. J'en parle dans le livre, hein, où sont passés les demi-dieux. Par exemple, je me baladais à Florence quand j'avais 20 ans et je voyais des garçons sublimes. Aujourd'hui, quand je me balade en Italie, j'en vois plus. Et donc, il y a vraiment cette idée que la beauté est forcément quelque chose d'évanescent. Aussi bien les garçons qui me fascinent que les actrices qui me fascinent, quoi. Cette idée que la beauté est forcément quelque chose de fini. Oui, il y a ce côté un peu, je sais pas, peut-être un peu mort à Venise, j'en sais rien. La beauté est un idéal condamné.
La beauté est mortifère, alors.
Non, elle n'est pas mortifère, non. Elle est morte. Elle est morte, mais c'est aussi pour ça qu'il y a la littérature, pour la faire revivre. Parce que, au fond, sinon ça servira à rien d'écrire des livres. La littérature, l'écriture me permet aujourd'hui de faire revivre des fascinations, des admirations que j'ai eues quand j'avais 10, 12, 15 ans. Parce que d'une certaine manière, c'est resté intact chez moi, cette passion de la beauté, cette passion du sublime, plus exactement. Et comme je ne la rencontre pas vraiment dans le monde moderne, dans le monde contemporain, l'écriture me permet de la faire revivre. Mais je crois pas que ce soit, enfin j'espère en tout cas, que c'est pas d'une manière réax, scrogneux, ah là là, c'était mieux avant, ça m'intéresse pas du tout cette position. Je crois pas être quelqu'un de réac d'ailleurs. Mais j'ai envie de réactiver mes fantasmes et de relancer mon sublime.
Comme programme. C'est ambitieux. Mais dites donc, on se choque au réel qui est toujours extrêmement décevant. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans votre littérature, qui est faite à la fois de pérégrinations, d'éléments de votre vie quotidienne, mais d'une espèce de tristesse.
Mélancolie, mais vous voyez par exemple, je me balade.
C'est pas exaltant le réel.
Non, c'est pas exaltant, et pourtant je trouve de l'exaltation. Vous voyez, par exemple, à la fin du livre, je raconte une balade au bord des quais, au bord du canal de l'Ourcq, et puis je vois une grue qui soulève du sable. Je regarde ça avec une telle intensité que ça finit par devenir absolument sublime. Il y a quelque chose de presque religieux dans cette expérience. La découverte d'un sens caché de la médiocrité. Au fond, je cherche à m'enfoncer dans le médiocre, à m'enfoncer dans la poussière pour y trouver le sublime. Et j'y arrive, enfin j'espère y arriver en tout cas.
On s'enfonce dans votre travail de diariste depuis maintenant des décennies parce qu'on y attend l'inattendu et on le trouve. Et à propos d'inattendu, vous êtes un marcheur. Tous les jours, manifestement, vous essayez de trouver des paysages urbains nouveaux. Et à un moment, vers la fin de votre nouveau livre, eh bien, vous tombez sur Notre-Dame. Et là, tout d'un coup, un moment de grâce. Vous le dites, très simplement. Vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? L'évidence de Notre-Dame. Alors aujourd'hui, depuis qu'elle a brûlé, comment vous y pensez à Notre-Dame?
Eh bien, je vous dirais que ça me touche beaucoup de passer devant Notre-Dame maintenant, parce que je la vois, elle a plus sa flèche. Moi, personnellement, je suis pas un fan de Viollet-le-Duc, donc ça me traumatise pas. Et Je vois, elle a plus sa flèche, elle a plus une partie de son, voilà, de ce, elle n'assure plus ses arrières, disons, et je trouve que ça lui donne une fragilité très humaine qui me touche énormément. Et son côté mastoc, son côté monument officiel, obligé, m'emmerdait un peu, je dois vous l'avouer. Et là, tout d'un coup, elle a retrouvé une humanité et je me remets à l'aimer. J'aime les dieux déchus, je vous l'ai dit, j'aime les déesses déchues, j'aime le passé ravagé, en fait, qui a besoin de moi pour réexister. Et d'une certaine manière, je me dis que là, dans les ruines, on peut se nicher plus facilement que dans les mausolées.
Ce n'est pas pour rien qu'un de vos livres s'intitule « Journal des ruines ».
Absolument, oui. J'aime me balader à travers les ruines et y trouver ma liberté. Et j'ai beaucoup plus d'émotions à regarder Notre-Dame aujourd'hui, maintenant qu'elle est fragile, et que je pourrais presque la prendre dans mes bras pour la consoler.
Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous reconnaissiez pas derrière l'étiquette d'homosexuel. D'ailleurs, vous détestez Noël Herbe, toutes les étiquettes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans celle de homo amoureux? Car vous tombez souvent amoureux.
Oui, pas si souvent que ça. Mais malheureusement, je tombe souvent amoureux d'hétérosexuels. Mais j'ai eu une histoire d'amour avec un garçon qui s'appelle Cyril Duret, qui est un peintre très brillant. Et voilà, ça a été une très belle histoire. Mais c'est un garçon qui avait 18 ans. J'en avais déjà 49. Et voilà. Et on a eu une très forte relation. Notamment, on a fait des films ensemble. On a fait un film qui s'appelle Fantasmes et fantômes. Il a fait les décors sous le signe de Jean-Christophe Averty, qu'il adorait. Et c'est vrai que, mais pour moi, la relation amoureuse, c'est quand même lié à la relation artistique, quoi. C'est-à-dire arriver à partager avec quelqu'un des admirations. J'aime pas beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry, vous savez, cette phrase qu'on cite tout le temps, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un à l'autre, c'est regarder dans la même direction, je trouve ça assez tarte, c'est pas vrai. Mais en même temps, je crois qu'il faut quand même qu'on partage à un certain moment un certain nombre de diffusions artistiques pour que ça ait du sens. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, Sacha Guitry l'a bien dit d'ailleurs, que de travailler avec quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus merveilleux.
Nous allons écouter un extrait de votre film avec Cyril qui s'intitule « Fantasmes et fantômes », extrait du court-métrage « Au téléphone ».
28 décembre. Encore le crépuscule. Cette heure qu'on surnomme entre chien et loup et qui est revenue me hanter la nuit dernière. J'étais je ne sais où, égaré dans une forêt obscure, comme si j'avais sauté du train en marche et ne retrouvais plus mon chemin. Il fallait errer longtemps parmi de grands arbres inquiétants avant de surprendre une lumière. À mesure que je m'approchais, je distinguais mieux, ça et là, les pans d'un décor qui me paraissait posé en plein désert, sans quiconque pour le regarder. De hautes grilles en fer forgé, toutes rouillées par la pluie. Quelque inscription héraldique gravée dans la pierre. Et dévoré par les herbes folles. Des chiens dormaient au pied d'une bâtisse sans âge qui avait peut-être hébergé jadis des fêtes galantes et brillantes. Les fenêtres du second étage étaient closes, à peine troublées par moments par le murmure du vent dans les persiennes.
Vous racontez Noël Herbe à la fois par l'art cinématographique mais aussi par l'art de la littérature. Tout ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous ressentez au plus profond de vous, nous le comprenons, n'est pas de l'ordre de la réalité. Et pourtant, ce n'est pas une hallucination. Vous ne vivez pas dans un univers onirique. Vous vivez où ?
Je vis dans mes fantasmes, dans mes obsessions, je vis dans le passé, je vis dans une espèce de défaut de réalité, en fait. C'est-à-dire que la réalité, pour moi, est quelque chose d'improbable. J'ai besoin de me persuader en permanence que j'y suis, quoi. Vous voyez, je vous parle en ce moment, mais je suis ailleurs aussi.
Vous êtes où, alors? Vous pouvez nous le décrire dans l'instant
même? Dans mon univers
même.
Mental, dans mon univers mental, dans des projections.
Vous pensez à quoi?
Plein de choses, à mon passé, à mon avenir. J'ai du mal à être hic et nunc, si vous voulez, être ici et maintenant. Et donc, je dirais que, voilà.
Ça tressaille dans votre conscience tout le temps,
quoi. Tout le temps. C'est totalement instable, oui. J'arrive jamais à trouver, enfin, j'ai beaucoup de mal, sauf quand j'écris.
Pourquoi? Parce que ça fixe le temps et ça fixe l'instant, comme exactement un papillon qu'on va accrocher une fois qu'il sera mort.
Oui,
il y a
ce moment où je dis qui est intéressant, où je dis j'ai du mal à écrire, je raconte que j'ai du mal à écrire et je dis ma pensée se fige en un tableau qui me permet enfin de respirer. Que l'écriture me donne une forme qui tout d'un coup me permet d'être libre et de trouver ma liberté à l'intérieur de cette forme. Et me permet de pas devenir fou aussi. Mais je dirais qu'en même temps, l'écriture me permet une ouverture, parce que sinon je resterais complètement prisonnier de mes fantasmes, comme voilà, et enfermé dans ce côté négatif qui me définit. Et l'écriture, tout d'un coup, m'oblige à m'ouvrir à l'inconnu, à l'imprévu, à quelque chose qui me dépasse, qui me déborde, à ce qu'on pourrait appeler une poésie. Par exemple, j'aime aller dans les squares, j'aime écrire dans les cafés, et tout d'un coup regarder les autres, et être délivré de moi-même par ce regard sur les autres qui tout d'un coup va m'apporter autre chose que mon répertoire connu et ressassé. Et je pense que je n'arrive pas à m'inscrire autrement qu'à l'intérieur de cette tension entre le connu et l'inconnu, et je crois qu'il faut être vraiment, comme moi, prisonnier du connu pour avoir tellement envie d'aller vers l'inconnu.
Parce que vous ne ressemblez pas dans votre apparence physique extérieure, dans votre enveloppe corporelle, à ce que vous voudriez être. Vous êtes en face de moi, vous portez des lunettes d'universitaire, une belle veste qui coûte à mon avis assez cher, vous êtes très chic, et vous avez l'air de ce que vous êtes au niveau du statut professionnel, critique réputé, universitaire du cinéma, auteur de nombreux livres qui font date, notamment sur Romère et sur d'autres aussi, sur Clouzot et sur bien d'autres. Et en fait, c'est pas ça que vous voulez être.
Non, je dirais que, au fond, j'ai envie de, d'une certaine manière, de déconstruire mon image de masculinité bourgeoise et envie de trouver, de déconstruire mon paraître, mon être social, et de retrouver l'être qui m'importe beaucoup plus.
Je vous propose d'écouter la voix de Serge Danet à propos de son destin d'homosexuel et de sa capacité de révolte. C'est un moment très émouvant que vous avez dû sans doute vivre et que nous allons pouvoir revivre grâce à l'Institut National de l'Audiovisuel. C'était dans un entretien avec Régis Debray qui s'intitulait « Cinéphys ». C'était en 1992.
C'était une assez grande fierté que j'avais, que ma mère représentait quelque chose qui pour moi a eu de la valeur et en a toujours eu, a toujours resté. C'est... l'accablante fierté des pauvres. Mmh. On ne doit rien à personne. On est des petits, c'est la phrase de ma grand-mère, et c'est vrai, ma grand-mère, c'est vraiment c'est la base de la société. Mais on ne doit rien à personne. Et il y avait aussi le côté, on n'en fait qu'à notre tête. En fait, on ne faisait pas grand-chose, d'ailleurs. Mais t'es vécu comme ça, on n'en fait qu'à notre tête. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire que j'ai été synchrone avec ça. Je l'ai revendiqué. Enfin, je l'ai vécu d'une façon revendicatrice. J'ai toujours été prêt à me battre pour quelque chose qui n'est jamais venu, qui est des luttes typiquement 19e siècle, qui existaient encore, mais peut-être pas à Paris, peut-être dans la province, où il y avait des histoires de mœurs. Alors, je veux dire, j'anticipais avec une intuition phénoménale sur mon futur destin d'homosexuel. Sauf que là aussi, j'ai été... je dirais épargné, vu que ça n'a pas été un enjeu si violent que ça, et que je n'ai pas été, j'ai réussi à me maintenir, passer au travers, je veux dire que la question ne m'a pas été violemment posée, si elle l'avait été, j'aurais réagi sans doute moi aussi très violemment.
Êtes-vous aussi Noël Herp, un cinéphile? Et Serge Danet est-il un de vos modèles?
Oh, j'admire beaucoup Serge Danet, oui, oui. À vrai dire, j'aime Serge Danet, je le trouve brillantissime, mais mon modèle, c'est vraiment André Bazin, dont je relis les écrits merveilleusement rassemblés ces jours-ci par Joubert Laurencin. Je suis plus proche de Bazin, je sais pas pourquoi, peut-être par ce goût pour le cinéma des années 40, cette écriture qui est à mon avis le fait légal de Proust. Je pense d'ailleurs que cette édition de Bazin aurait pu être dans la Pléiade, c'est pour moi un des plus grands écrivains du XXe siècle, André Bazin. Mais j'admire beaucoup Danet aussi, oui, et j'aime cette fragilité et cette manière qu'elle n'avait pas Bazin de mettre en scène son autobiographie à travers la critique. Moi j'ai fait un livre qui s'appelle Journal d'un cinéphile où je raconte un peu comment finalement on est regardé par le film autant qu'on le regarde et évidemment cette espèce de devenir image dont je parlais, à quel point on peut pas s'exonérer de la subjectivité quand on est critique. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup les gens qui écrivent au nom d'une doxa ou au nom d'un discours. J'ai horreur du discours. Et Danet avait cette affectivité tremblante, cette subjectivité qui me touche beaucoup. Oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Noël Herp. Attention, c'est avec son tralala de Francis Lopez, chanté par Suzy Delair, évidemment.
Habitait ces villes, et de toute la ville, c'était la plus agile de toutes les gitanas. Il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes. Car son petit tralala était si tralala que nulle part il y en avait comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une toccade pour Don Pedro l'alcade, à cause de ses gros bras. Loin de se laisser séduire, il eut un petit sourire qui avait l'air de dire: oh, toi tu ne mourras pas. Avec son tralala, son petit tralala, aussitôt elle se mit en campagne. D'un coup de tralala, elle fit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Forcé d'avouer sa défaite, Pedro reconnut loyalement qu'elle avait une arme secrète avec des effets foudroyants. Avec son tralala et son petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes. Car son petit tralala était si tralala que Pedro le lendemain l'épousa. Oh, aïe, 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 aïe.
Ah, c'est rare sur France Inter d'entendre Suzy Delair. Merci Noël Herp. Mais en écoutant cette chanson qu'on connaît d'ailleurs par cœur, on se demande ce que c'est que ce tralala. Et vous qui êtes passé par la psychanalyse, et vous l'expliquez dans vos livres précédents, vous pouvez nous dire ce que c'est vraiment que le tralala?
Bah, vous savez, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que quand j'étais enfant, je chantais à tue-tête sur la terrasse de la maison de Cancale, en face de ma grand-mère qui était très bigote, avec son tralala, et donc ça rameutait la rue du Port à Cancale, il y avait tout le monde qui passait, elle me dit, mais enfin Noël, à un moment, elle me dit, mais tu sais ce que c'est que le tralala? Bah non, non mamie. Bah enfin... Et en fait, le tralala, c'est pas vraiment le derrière, c'est plutôt l'espèce de postiche. Hein, mais je n'avais aucune conscience. Je chantais comme ça des chansons aigriardes. Je me souviens très bien avoir chanté, par exemple, pour un banquet de mariage, quand j'avais 9 ans, Prosper Yop Laboum, c'est le chéri de ces dames, il les envoie en saison faire un petit stage. Je comprenais pas du tout ce que ça racontait, mais j'étais sensible à la musique, hein, à la musique du passé. Mais le sous-entendu sexuel, j'y comprenais rien. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Si j'ai choisi cette chanson, c'est évidemment parce qu'elle nous renvoie à Clouzot.
Alors, pourquoi cet amour de Clouzot? Ceci digne, quand on vous lit sur Clouzot, on se dit que c'est un grand cinéaste aujourd'hui beaucoup trop méconnu.
Je suis pas un amoureux de Clouzot. Il se trouve que, avec Serge Toubiana, il y a quelques années, nous avons décidé de faire une expo Clouzot parce qu'ils avaient, la Cinémathèque française avait hérité d'un fonds d'archives. Et ensuite, le projet a été donc reconduit, et je m'en félicite, par Frédéric Bonneau. Mais, j'étais très content de faire cette expo et je trouve que Clouzot est un cinéaste passionnant. C'est pas quelqu'un de très sympathique. C'est quand même un gros macho, très coléreux, très méchant avec ses actrices, un très grand cinéaste, je dois l'avouer. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer un an sur les routes de France, à apporter la bonne parole clouzotienne et à défendre ses films. J'aurais aimé parfois défendre des films de Clouzot plus secrets que les diaboliques. On me fourguait tout le temps les diaboliques. Et moi, je préfère par exemple Miquette et sa mère ou L'Assassin Bito 21, car je pense qu'il y a chez Clouzot une dimension d'humour, de drôlerie, de légèreté, un rapport au théâtre. Il l'a, on vient de le voir, a été auteur, il a écrit avec des compositeurs d'opérettes, il a écrit pour Yvonne Printemps. Il a tout un côté homme de théâtre que j'aime beaucoup. Et c'est pas simplement le Clouzot grand guignol qui est pas forcément celui qui m'impressionne le plus. Et j'aime chez lui un certain humour qu'on ne met peut-être pas assez en avant. Donc voilà, j'ai essayé en tout cas en tant que commissaire de cette exposition, de montrer aussi cette dimension-là. Et puis son rapport aux arts plastiques, qui est passionnant quand il fait l'enfer, quand il fait la prisonnière. C'est quelqu'un qui va du côté de la modernité, d'une manière peut-être parfois un peu maladroite, un peu tâtonnante, mais qui cherche, qui n'a cessé de chercher jusqu'au bout. Et si vous voulez, je me suis un peu quand même consacré depuis des années à ces cinéastes dits de qualité française et dénoncés comme tels par Truffaut, et sur lesquels je trouve qu'on a été très injuste, car aussi bien Clouseau que René Clair, que Carnet ont été des gens qui ont quand même cherché jusqu'au bout, René Clément, et les cinéastes en C, comme par hasard, qui n'étaient pas aimés par les cahiers du cinéma, il faudrait s'interroger là-dessus. Voilà, c'est toujours un peu mon goût de me balader dans les ruines, de défendre les causes perdues et d'essayer de ranimer les dieux déchus et de dire le passé ne meurt pas et il y a de la vie dans ce qui vous paraît mort ou lointain. En ce moment, je me bats pour Kayat, par exemple. Je voudrais faire un documentaire sur Kayat que j'admire beaucoup et je me heurte souvent à des gens qui se foutent de ma gueule, qui me disent « Mais non, mais Noël, mais qu'est-ce que tu vas nous emmerder avec Kayat ou avec Carnet ?» Et c'est mon côté Don Quichotte. Voilà, je pense que je me suis installé dans cette position, de même que j'ai fait un film d'après Courteline, d'après André Delorde, d'après des auteurs complètement oubliés. Et voilà, je trouve ma vitalité dans cette confrontation à des figures effacées et qui en même temps pour lesquelles j'ai une grande tendresse.
C'est dur d'être cinéphile, Noël Herbe, si j'en juge par votre dernier livre intitulé Souvenirs écrans, voyage en France 2017-2018. Car, comme un vaillant petit soldat, vous arpentez la France, vous ne refusez aucune invitation pour aller parler de vos goûts cinéphiliques. Je vais vous citer. Une classe entière est là pour m'écouter. Des élèves d'option cinéma, ils sont sages comme des images. Bien plus que cette dame à Besançon qui jacassait pendant ma causerie et râlait pour peu qu'un voisin l'invite à se taire. Que comprennent-ils de ce que je raconte sur l'art cinétique ou l'expressionnisme ? Mais cette France, des cinémas d'art et d'essai, des petites villes qu'on dit aujourd'hui déshéritées, eh bien cette France, elle existe et son cœur battant, c'est le cinéma français. Encore aujourd'hui.
Oui, moi j'ai pas du tout voulu faire un livre à charge, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des gens qui sont passionnés, des associations qui entretiennent la flamme, des bénévoles qui continuent pour 3 francs 6 sous à animer des salles. Il y a 3 chats
dans la... À parler du cinéma après la séance.
Mais oui, mais c'est formidable. Il y a des gens, au contraire, c'est un livre d'amour pour ces gens-là. J'ai vraiment voulu dire à quel point c'était quand même merveilleux. Alors évidemment, il y a un côté ironique, sarcastique et mélancolique dans mon livre, mais je fais partie de ces gens-là, de ces Don Quichotte, et je me reconnais dans ces Don Quichotte qui continuent à croire au cinéma malgré tout. Donc j'ai pas du tout voulu me moquer de quoi que ce soit, au contraire. D'ailleurs, je pense que je me moque surtout de moi-même. Mais dire à quel point il y avait quelque chose d'absurde dans tout ça, parce que c'est vrai que les jeunes désertent, que les salles sont pas toujours très remplies, que les restaurants ferment à 8h, que les rues sont désertes dès 6h, que les hôtels vous chassent vers dès 10h du matin, que c'est une France un peu dépressive, un peu amorphe, qui pour moi est une France finalement qui annonce un peu ce qu'on vit aujourd'hui. J'aime y rechercher une flamme et je crois l'avoir trouvée chez ces passionnés qui croient encore au cinéma.
Nous allons écouter Alain Cavalier qui va donner sa définition du cinéma aujourd'hui. Écoutons-le.
Le cinéma, c'est très simple, ça n'a pas bougé chez moi. C'est que le premier court-métrage que j'ai fait, j'ai vu un type la nuit dans un café de la rue de Lussac rentrer avec le New York Herald Tribune qu'il vendait. Et c'était édité à minuit, hein. Et j'ai trouvé ce type tout à fait intéressant. J'ai cherché à faire mon premier film, mon premier court-métrage. Et je suis allé le voir, je lui dis, je vais tourner votre vie, hein, la nuit. Et il a accepté de le faire. Et il a été nommé, entre-temps, avant que je tourne, il a été nommé correcteur au journal. Et le journal lui a interdit de figurer dans un film comme vendeur de journaux. Alors, je me suis dit, mon film est foutu. Et en passant à Montparnasse, dans un café, j'ai vu un type qui lisait un journal et je me suis dit, mais il serait parfait à la place de l'autre. Ce qui fait que j'ai fait à la fois un documentaire et une fiction. J'ai été en berlificoté dans les deux et ça a duré très longtemps comme ça, en fait. J'ai fini par tourner seul, sans budget, sans équipe, avec pas de comédiens, parce que les comédiens changent un film. Et je voulais pas dire une bêtise, mais j'étais moi-même. C'est-à-dire que je filmais moi-même à mon rythme. C'était à la fois mon corps, ma pensée, ma... Et j'attendais de la vie toujours un événement et un geste d'une personne qui était différent de tous les films que je voyais ou que j'avais fait moi-même.
Alors nous venons d'entendre Alain Cavalier parler de son art du cinéma et de sa manière de faire du cinéma aujourd'hui. On se souvient qu'Alain Cavalier a commencé avec du cinéma qu'on dirait aujourd'hui commercial, avec des têtes d'affiches comme Romy Schneider, Alain Delon. Et puis petit à petit, il a orienté son art cinématographique vers de plus en plus d'éléments autobiographiques. Et petit à petit aussi, il a allégé les moyens de production. Et maintenant, il tourne avec une caméra ce qu'il regarde. Et effectivement, nous qui vous lisons depuis longtemps, Noël Herpe, eh bien, je me dis que vous avez beaucoup de points communs avec Alain Cavalier. Vous dégagez de tout ce qui paraît superfétatoire pour nous raconter, à nous spectateurs de votre cinéma et lecteurs de vos livres, ce que vous ressentez au plus intime de vous-même.
Oui, je suis très très heureux que vous parliez d'Alain Cavalier parce que justement j'ai pensé à lui en écrivant ce livre. Je crois que c'est un film qui s'appelle 36 gouttes de sommeil où il raconte sa tournée, où il présente des films et puis il y a là aussi il y a pas grand monde dans la salle et puis on lui propose de faire un débat avec Trintignant. Et, bon, il va boire un coup, etc. Et puis il se filme dans le miroir des toilettes de son hôtel. Il montre les chambres d'hôtel, etc. Et je pense que j'ai pas voulu faire un livre comme lui, mais j'ai pensé à lui en tout cas et je lui enverrai le livre. Sans doute, il y a cette idée de retrouver quand même un miracle, une goutte de merveilleux justement au sein de
vous aimez de pas la mélancolie. Ouais. Vous aimez pas le mot authenticité. Vous le dites dans ce livre.
Non, j'y crois pas trop. Non.
Donc alors c'est quoi? C'est merveilleux. Oui, retrouver le merveilleux, pas l'authentique.
Rechercher la croyance à l'intérieur de la désillusion. Rechercher le sublime dans la poussière. Rechercher le merveilleux dans le quotidien. Par exemple, je critique Julien Gracq qui, à un moment, je lis Julien Gracq qui dit oui, mais la littérature, c'est noble, c'est surréaliste, c'est la déflagration, là, etc. Je dis, et il méprise le journal intime, il méprise des auteurs comme Julien Green. Et personnellement, j'arrive pas à me reconnaître dans ça parce que pour moi, justement, c'est dans la poussière du quotidien que tout d'un coup, il y a des étincelles. C'est-à-dire, ça peut être des rencontres, ça peut être tout d'un coup des regards qui s'éclairent, ça peut être une discussion, ça peut être quelqu'un dont on tombe amoureux. Ça m'arrive dans ce livre. Je le raconte comme ça, de manière très, très fugace. Ça peut être un magnifique garçon aperçu à la terrasse d'un café. La vie est pleine de micro-scènes comme ça, qui vous permettent de ranimer l'imaginaire. Et c'est ça qui m'intéresse.
Dans cette émission, nous demandons à quelqu'un qui connaît le travail de l'invité de parler de lui. Nous avons demandé à l'actuel directeur de la Cinémathèque, Frédéric Bonneau, de s'exprimer à votre propos. Écoutez.
Ce qui est particulièrement personnel chez Noël, pour le dire simplement, c'est qu'il n'a pas les mêmes goûts que tout le monde, quoi. Voilà. C'est-à-dire que déjà, quand Noël était critique de façon régulière, à positif, et qu'il était aussi, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, sélectionneur au Festival de Cannes, enfin membre du comité de sélection du Festival de Cannes, c'est que c'est quelqu'un donc qui avait un rapport très fort avec le cinéma contemporain, qui savait ce qui se faisait dans le cinéma contemporain via son travail cannois, mais qui par ailleurs développait un goût pour certains cinéastes, pour certains auteurs, qui n'était pas et qui n'est toujours pas le goût de tout le monde. C'est-à-dire que Noël a un goût plus ou moins pervers, disons, pour un certain cinéma français des années 30, des années 40, voire des années 50, qui est un cinéma que d'aucuns jugeraient un peu vieillot, un peu désuet, un peu passé de mode, un peu cabinet de curiosité, disons. Voilà, et que donc Noël, en tant que critique, s'est toujours intéressé à des objets qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas à la mode et qu'ils n'intéressaient souvent que lui. Et donc, évidemment, ça faisait aussi sa singularité d'écriture. Comme en plus il a beaucoup d'humour, le dernier livre est particulièrement agréable à lire parce qu'il use et abuse de son côté anachronisme vivant, c'est-à-dire qu'on jette Noël Herpe comme ça sur les routes de France pour aller prêcher la bonne parole romérienne dans des endroits culturels, parfois un peu improbables, même s'ils sont toujours très sympathiques. Et donc, on jette cet anachronisme vivant sur les routes de France et on voit quelqu'un nourri d'un certain cinéma, d'une certaine littérature, se confronter comme ça ou rencontrer de plein fouet, se cogner presque. Voilà, Noël se cogne à notre vie de tous les jours, à notre banalité de 2019 qui n'a absolument rien à voir avec son imaginaire littéraire ou cinématographique. Et c'est ça qui fait le prix de ses livres. C'est à quel point il trouve tout naturellement, parce qu'il est profondément écrivain, à mettre en scène son personnage, comme ça, d'anachronisme vivant, qui parle de choses qui souvent n'intéressent que lui, et donc c'est quelque chose qui peut être très émouvant et qui peut aussi parfois être très drôle. Alors, cher Noël, toi qui es un grand spécialiste de Clouzot, que d'ailleurs, grâce à toi, grâce à ton travail à la Cinémathèque, à l'exposition consacrée à Clouzot et au catalogue qui l'accompagnait, grâce à toi, j'ai revu Clouzot à la hausse. Mais quand même, Noël, est-ce bien sérieux de préférer Clouzot à Hitchcock?
Oh, mais j'ai jamais préféré Clouzot à Hitchcock. Pas du tout, non. Mais
attention, il en va de votre réputation, Noël Herp.
Ah non, mais pour moi, Hitchcock est un sommet du cinéma. C'est le plus grand cinéaste qui ait jamais existé. Et je peine parfois à en convaincre mes étudiants qui me disent parfois Hitchcock bof bof. Donc vous voyez où on en est. Et par contre, il me défend Clouzot en me disant mais l'enfer c'est génial. Donc c'est le monde à l'envers. Ah non, mais j'adore Hitchcock. Non, je crois avoir du goût quand même.
Heureusement que vous le dites, hein, Noël.
J'espère, oui. Mais je suis très touché par ce portrait que fait de moi Frédéric. Mais c'est vrai que j'ai l'esprit de contradiction. Oui, j'aime pas être.
Comme tout le monde.
Voilà, et c'est vrai que voilà.
Mais alors Cannes.
Je vous ai dit moi-même que pour moi Clouzot n'était pas le plus grand cinéaste qui soit.
Mais alors pourquoi vous obstinez à passer des années à écrire des livres sur des gens que vous n'aimez pas pour être à contre-courant absolument?
Parce que j'aime trouver tout d'un coup une étincelle et arriver à redéployer le regard et à faire en sorte qu'on regarde ces films autrement. Ça m'emmerde un peu de parler de films. Ça m'intéresse pas de parler d'Hitchcock parce que tout le monde a parlé d'Hitchcock, Truffaut, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire sur Hitchcock. Moi, ça m'intéresse de dire bah vous croyez que ça c'est pas intéressant, mais non, il y a quelque chose à chercher, il y a un mystère, il y a quelque chose de paradoxal et ça me permet aussi de faire jouer une imagination poétique. C'est-à-dire pas simplement être dans la critique, mais tout d'un coup de voir dans des films qui sont pas forcément les plus admirés une poésie que je suis seul à y voir. C'est peut-être une volonté d'être le seul à régner sur les ruines.
Original, absolument.
Ça nous ramène à cet enfant qui se baladait au milieu des cimetières.
Frédéric Bonneau vient de dire que vous avez été sélectionneur à Cannes pendant longtemps. Dans un de vos livres précédents, vous parlez de ce festival de Cannes. C'était pas forcément une partie de plaisir. D'ailleurs, vous n'y dormiez pas beaucoup durant ces festivals de Cannes. Le festival de Cannes approche. Qu'en pensez-vous?
Ouais, écoutez, moi, j'ai adoré travailler avec Gilles Jacob pendant des années, un peu avec Thierry Frémaux comme sélectionneur. C'était effectivement très fatigant parce qu'on voyait des films toute la journée. Et ça, je dirais que ça m'a un peu guéri de la cinéphilie obsessionnelle. C'est peut-être ça aussi qui m'a permis de passer à l'écriture, de terminer une période de ma vie qui avait été très marquée par la cinéphilie, par une consommation extrêmement boulimique, et de passer à autre chose. Un jour, j'ai d'ailleurs dû choisir entre Thierry Frémaux m'a dit lui-même, d'ailleurs, il faut que tu choisisses entre ta carrière de sélectionneur et ta carrière d'universitaire. Et j'ai préféré partir à Chicago et laisser tomber le Festival de Cannes. Je ne le regrette pas aujourd'hui, car je pense que la cinéphilie peut être quelque chose de mortifère si on s'y enferme. Mais voilà, en tout cas, le Festival de Cannes... Puis il se trouve que le Festival de Cannes, chaque fois que j'y allais, comme j'étais sélectionneur, j'étais plus vraiment dans une position de critique. Et j'avais vu tous les films, en fait. Donc je me retrouvais toute la journée à voir arriver vers moi des critiques qui venaient de voir les films que j'avais déjà vus 6 mois avant et qui m'en parlaient d'une manière un peu décalée. Voilà. Donc c'est un drôle de job que je ne referais plus aujourd'hui. Mais ça a été une expérience passionnante. Mais c'est pour moi, il faut être. Je dirais que pour moi, la critique de cinéma et la sélection de festivals, c'est un métier de jeune. C'est très excitant.
Mais arrêtez de dire que vous êtes vieux. Dans
vieux
ce livre,
aujourd'hui.
Vous dites alors, ouais. Vous dites que vous êtes vieux.
Non, je suis pas vieux. Mais
la vie d'un homme de mon âge, surtout lorsqu'il s'adresse à des jeunes gens, consiste à répéter rituellement des choses déjà pensées, déjà lues. Je marche pour défaire ces liens.
Oui.
Vraiment vieux, Noël Herp, vous avez quel âge?
J'ai 54 ans.
Oh!
Mais je me mais je me ressens pas vieux du tout. Au contraire, je me ressens plus, je dirais pas plus jeune que jamais, mais plus enfant que jamais. J'essaie de retrouver la fraîcheur de mon enfance. Mais aujourd'hui, oui, peut-être que la cinéphilie me paraît quelque chose de possiblement mortifère, et l'écriture me permet de retrouver cette fraîcheur, et de retrouver un mouvement qui me surprend davantage.
Ben, vous reviendrez pour le prochain livre à une seule condition, c'est que vous veniez en collant.
Avec plaisir.
Merci Noël R pour ce livre qui vient de sortir, qui s'intitule Souvenir écran, voyage en France 2017-2018 aux éditions Bartilla. Et comme vous êtes un homme encore jeune et cependant extrêmement branché, je suis sûre que vous connaissez ce nouveau talent, Billie Eilish. Écoutez. C'était Bad Guy, ça vous va bien, hein, Noël Herbe, de Billie Eilish. Merci à Kevin Pelot qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy. Et merci à Lilian Alloum qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Didier Varro pour sa foule sentimentale.